Et oui, Dasrich, c'est avec nous Emmanuel Ferrand, qui est le spécialiste, et aujourd'hui ici, à cette table en tout cas, parce que moi j'y connais que dalle, du biohacking. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Emmanuel Ferrand, vous êtes plutôt du côté des mathématiques à la base, à Paris, vous êtes maître de conférence. Quel est le rapport, quel est votre rapport avec le biohacking?
C'est venu de la manière suivante. Donc déjà, j'ai fait des études un peu non linéaires. J'ai étudié un petit peu la biologie dans une vie antérieure. J'ai séquencé un génome de virus dans les années 90 et des choses comme ça. Donc j'ai appris quand même les bases, disons, de la génétique moderne de l'époque. Ça a bien changé depuis. Et puis après, la vie m'a conduit sous d'autres horizons. Mais j'ai toujours gardé un intérêt pour cette science. Et puis regarder la biologie du point de vue des mathématiques, c'est très très intéressant, parce que finalement la biologie offre un exemple typique de ce qu'on appelle un système complexe où tout est en interaction avec tout, et les mathématiques ont des choses à dire là-dessus, et les biologistes en retour, ils sont en demande d'intervention des maths dans leur science, et donc on est un sujet ici chaud de la recherche actuelle.
Ok. Mais alors du coup, vos premiers amours, c'est la biologie. Et est-ce que vos premiers amours, c'est aussi le biohacking, ou est-ce que vous êtes dans ce milieu-là depuis très longtemps?
Donc, alors, on va s'entendre un petit peu plus tard sur ce que c'est que le biohacking.
Tout à
on
fait.
Va
c'est ma question suivante.
Définition. Mais disons que là, j'ai parlé d'un point de vue un petit peu scientifique. Après, en pratique, c'est très simple. Moi, j'ai consommé des produits fermentés depuis très longtemps, typiquement du lait fermenté ou des boissons fermentées, etc. Puis un jour, j'ai compris que je pouvais les faire moi-même. Et puis en même temps que cela, j'ai compris justement l'intérêt de comprendre ces notions de fermentation et de symbiose en particulier. Le mot symbiose est extrêmement important pour moi. C'est pas pour faire de la bière, on utilise une levure, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui se greffent là-dessus et qui font toute la subtilité du résultat. Et donc, voulant faire moi-même ma propre bière ou mes propres boissons fermentées, je me suis intéressé donc de manière extrêmement concrète et pratique à manipuler des bactéries et et autres d'ailleurs, des levures, des choses comme ça.
D'accord.
Ça, c'était dans les années 2000, donc ça fait
une quinzaine d'années.
Bout de temps. Et là, j'ai mis en place un réseau d'échanges de ferments, essentiellement à portée agroalimentaire, à fermentation gastronomique, on va dire, au sens large. Et selon moi, ça rentre dans le cadre du biohacking d'un certain point de vue.
Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est le biohacking, et depuis quand on commence à parler de ce terme-là?
Alors, moi, mon credo, le mot en soi, il a été inventé, j'imagine, relativement récemment, après l'essor du hacking dans le monde de l'informatique. Et il y a d'ailleurs une analogie entre l'informatique et la biologie qui est devenue très populaire dernièrement, parce qu'on a parlé du code génétique, et on essaye d'y voir des analogies et des modes de pensée similaires. On parle de système d'exploitation pour décrire une cellule, etc. Alors évidemment, c'est très, très, très simpliste. Mais donc, il y a eu un mouvement depuis les hackers vers la biologie, dans les années, là aussi depuis les 15 dernières années.
Mais, c'est pas plus ancien que ça, c'est
ce
2000,
mot, j'imagine, ce mot a été forgé, j'ai pas fait des recherches historiques, mais le mot biohacker doit être, a succédé au mot hacker. Mais par contre, dans l'esprit, c'est exactement l'inverse. Dans l'esprit, l'homme a commencé à hacker la nature il y a quelques milliers d'années, quand il est sorti du paléolithique et qu'il a commencé à vouloir cultiver des plantes, domestiquer des animaux. Et là, il y a eu une recherche et un impact énorme sur son environnement et sur la nature, qui relève de l'expérimentation, de l'essai-erreur, et typiquement aussi des commons, c'est-à-dire du savoir partagé et commun. Et donc tout ça s'est développé pendant des milliers et des milliers d'années, et c'est finalement très récent qu'il y a une sorte de mainmise des institutions, des systèmes, j'allais dire capitalistes, c'est pas le mot, c'est pas ce que, disons, dans la Russie communiste, c'était à peu près pareil, mais disons de normalisation de notre approche au vivant, et qui a finalement coupé le lien que l'on avait avec le vivant. Avant, on était à la campagne, on voyait naître des animaux, on touchait, tout le monde avait vu un placenta, peut-être il y en a certains qui l'avaient mangé, j'en sais rien.
Donc le biohacking en fait actuel, ça serait une récupération des gens de leur influence sur le vivant et du bidouillage qu'on peut faire
Donc ça, c'est en tout cas moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est le, disons, l'un des buts que je pense qu'on pourrait lui assigner, c'est
Sortir la science des labos et des grandes institutions et de ce cadre un peu sacré.
Voilà, ça dépend ce qu'on appelle science, disons, mais l'expérience et le savoir, la connaissance partagée et voilà, et reprendre un petit peu pied sur ce contrôle qu'on a tendance à déléguer à des institutions. Voilà.
Comment c'est né ? J'ai vu que c'était notamment du fait que les instruments qui sont utilisés en labo, qui coûtent assez cher, ce prix avait beaucoup chuté, ce qui a permis à tout à chacun de s'équiper, de créer ses petits labos chez soi et de faire ses propres expériences. Est-ce que c'est ça ou c'est complètement autre chose ?
C'est à moitié vrai. Disons que c'est un peu comme l'impression 3D, ça existe depuis très 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 longtemps, et le fait que des gens aient eu des projets open source d'impression 3D, ça a permis de diminuer drastiquement les prix des machines, même commerciales, et pas seulement celles qui sont libres. Et il y a un peu le même phénomène. Disons que la biologie moderne, elle est souvent basée sur une mécanisation des opérations. Il faut robotiser, automatiser des petites manips presque de biochimie. Et finalement, donc les grands progrès ont été réalisés récents. Ils ont été réalisés presque au niveau de l'électromécanique, j'ai envie de dire, ou de l'informatique très bas de gamme, l'automatisation des tâches. Et c'est très étonnant. C'est pas au niveau des concepts de la biologie vraiment qu'il y a eu les plus grands progrès. C'est au niveau des séquenceurs, des machines en fait. Et donc, en parallèle à ce développement des machines, une obsolescence de plus en plus rapide des machines de labo, déjà, on peut en récupérer. Le labo professionnel, il va mettre à la poubelle du matériel récent, puisque chaque année, ça double en puissance. Il y a une sorte de loi de Moore pour ces trucs de biologie. Donc déjà, il y a une grande facilité de récupérer du matériel de labo, donc de copier des plans, de diffuser, de faire chuter les prix. Dès qu'on s'aperçoit qu'une machine à cuire le riz branchée sur un Arduino, ça peut se transformer en un truc très utile pour les. Voilà.
On en vient même d'ailleurs à utiliser par exemple des moteurs d'imprimante à jet d'encre pour créer des microcultures, ce genre de choses. C'est vrai que le hacking en général a aussi envahi les labos. Si certains labos du CNRS n'ont pas les moyens de s'acheter l'équipement dont vous parliez, mais justement sont intéressés à ces méthodes de construction.
Donc là, ça me permet de...
Il lève le doigt en même temps, je décris la scène.
C'est très très intéressant ce que tu viens de dire. Je voudrais moduler un petit peu la chose. Quand on se promène dans un laboratoire, surtout avec des vieux chercheurs, quand on leur explique ce que c'est que le biohacking, ils te disent, non, ce que vous faites, c'est juste que nous, on a toujours fait un labo de recherche, un vrai, c'est toujours du bricolage, on imagine des salles blanches tout nickel, etc. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Il y a une pénurie en France en tout cas, de locaux, de moyens, de trucs, et les gens ont toujours bricolé. Il y a vraiment cet esprit, le vrai esprit de la recherche, c'est l'esprit du hacker. C'est pour ça que moi je suis là d'ailleurs, c'est parce que j'y crois vraiment.
Il y avait des cours de verrerie quand j'étais en chimie pour pouvoir faire les ampoules de condensation et tout ça. Donc ça a toujours existé.
Mais alors du coup, c'est quoi la philosophie du biohacker en fait ? Pourquoi vous faites ça vous ?
Donc moi, mon intérêt personnel, il est un peu étrange. Je suis intéressé par les mathématiques et cette notion de système complexe et des interactions entre les mathématiques et le vivant. Donc si vous voulez, j'ai un biais un petit peu scientifique. Je demande pas à tout le monde de s'intéresser à ça. Après, je vois un intérêt très pratique, on va dire par exemple gastronomique, fabriquer soi-même ses boissons. Comprendre. Je vais prendre un exemple, si j'ai le droit peut-être de citer une marque commerciale,
Allez-y.
Une grande entreprise.
Il va falloir en donner deux autres après. Hein.
Voilà, donc prenons l'exemple d'une société comme Danone, qui commercialise depuis longtemps des produits qu'ils appellent probiotiques. Alors c'est pour eux, c'est des produits à haute valeur ajoutée, c'est par exemple Lactimel. Vous voyez.
Qui te rend intelligent.
C'est merveilleux, ça soigne tout. Moi, j'ai mieux là dans ma bouteille devant moi.
Oui, d'ailleurs, c'est quoi cette bouteille de lait ?
C'est ma version à moi de Lactimel, qui est à mon avis au moins aussi performante, si ce n'est plus, et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère. Et surtout, voilà, je peux la bricoler moi-même et c'est vraiment facile. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez, vu que vous en parlez là, qu'est-ce que c'est ? On a une bouteille d'un litre de lait avec écrit essai fermentologique.
Voilà, essai fermentologique, c'était pour que les gens ne confondent pas avec une bouteille de lait normale et qu'ils ne la prennent pas au petit déjeuner.
Qu'est-ce que vous avez mis dedans ?
J'ai mis un truc que je ne sais pas. que je contrôle pas vraiment, à vrai dire, parce que je peux le contrôler chez moi, dans ma cuisine, mais j'ai trop de choses qui fermentent en même temps. Il y a des contaminations croisées. Oui. Ça, c'est ce que Danone peut pas faire. Par exemple, Danone va vous vendre un produit normalisé. Ils savent à peu près quelles bactéries ils ont mis dedans.
Heureusement, quelque part.
Moi, mes cultures, elles s'adaptent à mon environnement. Et si je vous donne des ferments, chez vous, ça va se développer un peu différemment. Mmh. Disons, c'est des bactéries et des levures en symbiose. Elles vont trouver un autre état d'équilibre, ça va peut-être trouver d'autres goûts, ça va donner des spécificités aux productions.
Et donc là concrètement vous avez mis des bactéries ou des levures dans du lait,
voilà,
et
ça.
Le but c'était de voir ce qui allait se passer.
Donc moi je sais ce qui va se passer si j'attends suffisamment longtemps, ce qui n'est pas encore le cas. Là ça fait 12 heures que ça fermente, le lait va coaguler, le lactose va être transformé en acide lactique. Donc ça va se transformer en une suspension de petits blocs de fromage dans du petit lait, et ça va acquérir un petit goût acide que l'on peut aimer ou pas.
Okay.
Et certaines saveurs aussi vont se développer certainement en fonction de la flore qui vit là-dedans. Je suis à peu près confiant sur le fait que ça n'est pas toxique parce que ça fait longtemps que je pratique, etc. Mais effectivement chez Danone, eux, ils sont obligés de... Quand même, il faut le reconnaître, ils ont cette contrainte qu'ils doivent garantir cela.
Et oui, la bonne santé de leurs consommateurs, voilà. Et clients.
Mais pour en finir avec eux, quand même, je voudrais faire remarquer que dans un produit comme Lactimel, vu la structure des prix qui est proposée, c'est une toute petite bouteille, c'est vendu très très cher. Si vous regardez par rapport à un yaourt normal, ça, à mon avis, ça ne demande pas plus d'investissement à produire que du yaourt bas de gamme. Hein. C'est le même genre de procédé. Et c'est un produit où Danone a surtout investi énormément en communication, en storytelling, en marketing.
Et
ils font des marges importantes là-dessus. Et ils ont tout ce qu'on appelle les alicaments. Donc ils essayent de faire croire aux gens qu'on peut, de manière comme ça un petit peu naïve, améliorer sa santé juste en buvant un peu d'Actimel.
Alors qu'on pourrait le faire chez soi, comme tous les gens qui font leur propre yaourt.
Oui. À vrai dire,
dans leur cuisine,
là, pour moi, ça fait partie des choses. Vous voyez, là, je reprends ma casquette de mathématicien. Vous êtes un système biologique. On peut pas vous isoler. On peut pas isoler votre prise d'Actimel à 9h02 et des fraises Tagada que vous allez prendre juste après et du Coca-Cola qui va complètement pourrir votre effort.
Oui.
Et certainement, quelqu'un qui, comme moi, fait de la fermentation maison, c'est aussi quelqu'un qui va avoir dans le reste de son alimentation une autre hygiène. Et donc, si on veut tester les conséquences, c'est difficile de dire que c'est à cause de ma fermentation maison que je suis en bonne santé. C'est peut-être aussi... c'est un tout, en fait. Mmh. Et il y a cette idée fondamentale qu'en biologie, c'est très difficile de séparer un événement, une situation du reste de l'environnement. On est en interaction.
Est-ce que du coup le biohacking ça se limite à je me fais l'avocat du diable, mais à montrer qu'on peut faire des choses que des industriels ou des labos font et point en fait.
Donc
et c'est tout. Ou est-ce que ça va au-delà ?
Non, bien ça va au-delà. Première tâche, donc prise de conscience, donc éducation populaire, on va dire. C'est pas si compliqué que ça. On peut comprendre beaucoup de choses en faisant un petit peu d'effort, certes, mais c'est pas pire que d'apprendre le piano. Vous voyez, vous faites des gammes, etc.
Qu'on apprend justement
La biologie, vous pouvez vous documenter, rencontrer des gens, participer à des ateliers. Donc, je dis pas qu'on peut obtenir des résultats directement comme ça, juste en faisant des essais n'importe comment. Mais disons que c'est quelque chose qui n'est pas inaccessible. Donc, déjà, prendre conscience de ça, c'est déjà d'un grand intérêt social, à mon avis.
Ça désacralise un truc un peu inconnu, quoi.
Voilà. Donc, prendre conscience des réalités. Typiquement, une entreprise comme Danone essaye de vous faire croire qu'ils ont une science. Ils ont d'ailleurs publié des faux articles scientifiques sur leurs bactéries. Enfin, faux, j'exagère, mais disons, ça, c'est à la limite
C'est comme le greenwashing pour d'autres entreprises.
Voilà. C'est à la limite de la fraude scientifique pour faire croire qu'ils ont découvert une bactérie spéciale qui a des propriétés extraordinaires.
Fond du Kalahari.
Et ils ont peut-être même déposé quelques brevets, j'en sais rien, sur quelques techniques. L'idée est donc ces articles, cette communication scientifique a été utilisée ensuite dans leur communication vers les consommateurs. Hein, ils ont intitulé leur bactérie. Il y avait le mot défensif. C'est eux qui ont rajouté ça pour faire croire qu'ils ont amélioré les défenses immunitaires. Bref, ils essayent. Le consommateur, il est face à un truc, un discours d'apparence très scientifique. ils se disent j'y comprends rien, je leur fais confiance, voilà, ça doit être génial. En fait,
alors, en sachant le faire, on pourrait décrypter ça, quoi.
On peut mieux comprendre ce à quoi on a affaire en réalité, en fait.
Ok. Nous continuons CPU avec Emmanuel Ferrand, donc, qui est mathématicien et chercheur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris.
Et qui nous parle, de biohacking. Et juste avant la pause musicale, on disait que faire du biohacking, ça permettait de mieux comprendre toutes les soupes qu'on nous vendait et qu'on nous vendait comme des choses exceptionnelles. Et du coup, je me demandais quel est le rapport aux autorités et du secteur de la bio, etc., de la bio-industrie, avec les biohackers. Est-ce qu'il y a de la méfiance, de l'indifférence ou carrément des menaces pour les étouffer ?
Bien, alors il faut comprendre déjà qu'il y a tout un spectre très large de gens qui s'intitulent biohackers ou même qui font du biohacking sans s'intituler biohackers. Donc d'un côté, il y a des gens complètement obscurs, peut-être ceux qui font le plus de choses, c'est ceux qu'on voit le moins. C'est typiquement les gens qui vont bidouiller des plantes pour faire de la drogue ou des trucs comme ça. Il y a une grosse activité là-dessus sur Internet d'échanges, de recettes. On est à la limite de la chimie et de la biologie. Hein. Mais là, il y a vraiment des gens qui font du labo expérimental complètement hors institution. Mais évidemment, ils n'ont aucune envie faire la une des journaux. Il y a aussi des gens qui ont des motivations un peu plus fantaisistes, complotistes, sectaires, transhumanistes ou je sais pas quoi. Après, la mode, disons, les biohackers tels qu'on les voit dans les journaux grand public actuellement, c'est en général, ça relève plus, disons, du Fab Lab que du hackerspace. C'est souvent quelque chose qui est en lien avec un système académique, financé par des autorités ou financé par des entreprises. Et même s'il y a des valeurs, les valeurs de base de notre communauté qui sont l'ouverture, open data, etc., qui sont plus ou moins respectées, la biologie, elle se distingue de l'informatique par le fait que malheureusement, il faut des réactifs. Même si les machines, comme on disait tout à l'heure, leur prix a baissé, on ne peut pas être complètement coupé du monde institutionnel.
Ça coûte toujours un peu d'argent.
Ça coûte de l'argent. Il faut aussi, il y a des choses qu'on tout simplement ne veut pas faire en do it yourself. Ce n'est pas vrai. Là, il y a un gros mensonge.
Comme quoi, par exemple?
Si vous voulez éditer de l'ADN, il faut acheter toutes sortes de réactifs et de produits. C'est de la chimie complexe. Mettre les pieds dans le plat. Il y a une institution américaine qui est en pointe dans cette histoire de biohacking, c'est le MIT. On peut difficilement dire que c'est...
Ils ne sont pas trop hackers, donc,
Si, bien sûr, ils le revendiquent à fond, au contraire, même l'ouverture, etc., c'est eux qui ont fait la charte des Fab Labs et des choses comme ça, au contraire, mais on voit bien exactement ce dont je veux parler, la collusion entre une grosse institution, des gens qui ont intérêt à diffuser dans la population l'idée que la technologie high-tech, c'est cool, et donc ils vont financer ou faciliter le fait que certaines idées se répandent dans la population. Et typiquement, dans le sillage du MIT, il y a l'essentiel des gens qui s'intitulent biohackers, disons officiels, et qui sont donc. Alors après, il y a toujours des gens farfelus qui disent qu'ils vont faire, des virus de la variole, des choses comme ça. Ça reste de l'ordre de la menace, qui est pas vraiment prise au sérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autorités policières américaines, par exemple, s'amusent quand même à contrôler ces gens au sens positif du terme. Ils les invitent dans des colloques en disant « soyons copains ».
Ils les institutionnalisent en fait.
Voilà, donc c'est relativement contrôlé. Dans le sillage du MIT, historiquement relié, il y a le concours iGEM qui est en fait... emblématique de ce que certains vont appeler le biohacking, mais qui en réalité concerne souvent des étudiants universitaires qui sont déjà dans le système scientifique. C'est pas pour critiquer ce concours, mais c'est pour bien marquer la différence entre ce genre d'activité qui relève peut-être plus du club astronomie ou du club robotique de l'université que d'une activité vraiment underground comme on peut faire ici.
Et du coup, ces gens qui se disent biohackers officiels, pour vous, ça n'en est pas?
Ça en est, mais il faut faire attention à ne pas se limiter à ce genre d'activité. Et ce qui est très intéressant, c'est d'étudier par exemple ce concours iGEM qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Il y a des dizaines ou des centaines d'équipes d'étudiants qui ont fabriqué des petites bactéries modifiées pour faire tel ou tel truc. Alors déjà, il y a un discours sous-jacent idéologique qui est très clair. Il faut sauver le monde, sauver le tiers-monde en particulier. Donc c'est voilà, le MIT américain qui arrive pour sauver la planète. Et c'est jamais dit comme ça, mais on peut le lire comme cela. Et donc les équipes, très généreusement, vont proposer des solutions pour voilà, dépolluer tel truc suite au tremblement de terre, machin. Après, dans la réalité des faits, ça ne donne vraiment pas grand-chose. Hein. Quand on regarde les centaines de projets qui ont été proposés et les conclusions concrètes dans la vie quotidienne, là, c'est du biohacking qui est resté au stade pédagogique, on va dire. Alors qu'il y a peut-être d'autres actions, peut-être moins high-tech en termes de... comment dire, de... technique, mais plus roots, qui a un gros impact concret.
Par exemple,
hier, il y avait une conférence d'urbanistes et d'architectes alternatifs, échelle inconnue. Alors, ils ne sont pas du tout des biohackers, mais ils ont insisté sur le fait que, ça m'a beaucoup touché, l'une des actions, ils s'intéressent donc aux villes mobiles, aux habitats mobiles, aux gens qui habitent dans des caravanes, des camps, des machins. Et finalement, ils ont, pour eux, la chose emblématique sur laquelle il faut réfléchir et agir et sur laquelle ils ont des actions concrètes, c'est faciliter le transport des toilettes et des douches et des chiottes, etc. Oui. De manière hygiénique et concrètement faisable, et ça améliore vraiment la vie des gens.
En quoi il y a un lien avec le biohacking alors?
Il faut traiter des questions d'hygiène et de vivant et de fermentation et de déchets organiques et de choses comme ça. C'est fabriquer des toilettes sèches qui fonctionnent de manière concrète. C'est beaucoup plus utile pour l'humanité que de fabriquer une bactérie qui va devenir luminescente la nuit et soi-disant éclairer
les rues. Voilà. Parce que justement, le biohacking, c'est pas que au niveau du lait, au niveau de la nourriture, des aliments. Ça peut être faire des encres moins chères, du papier différent. Enfin, ça brasse toutes les sciences du vivant, en fait.
Évidemment, au niveau des encres, il y en a qui vont fabriquer, par exemple, il y a un projet bien connu où on fabrique de l'encre par des bactéries dans le stylo lui-même, si j'ai bien compris. Bon, c'est intéressant d'un point de vue conceptuel. Après, il faut savoir que dans la nature elle-même, depuis la nuit des temps, on va extraire des produits agricoles, je sais pas, du brou de noix ou je ne sais quoi, des pigments ou de l'indigo, et on n'a pas attendu les modifications génétiques sur les bactéries pour industrialiser le vivant et en tirer des produits chimiques. Et donc moi, ça me fait un peu, enfin voilà, j'aime bien qu'on délire et qu'on fasse des stylos génétiquement modifiés, mais qui produisent eux-mêmes leur encre, auquel cas, au lieu de mettre de l'encre, on doit mettre à manger pour les bactéries, j'imagine. Mais conceptuellement, c'est intéressant. Après, faut raison garder d'un point de vue pratique. La nature nous a déjà donné beaucoup de raisons de faire des dessins.
C'est un peu effectivement le problème, tout comme d'autres questions de bidouille, c'est qu'en fait, on va vers des solutions overkill pour on crée des réponses pour des problèmes qui ne se posent pas pour ce cas-là spécifique. Quoi.
Donc là, j'ai cité ce truc un peu au hasard.
Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une publicité que j'ai lue dans la recherche en 90 où il parlait d'un stylo avec de l'ADN dedans, donc on pourra toujours lire ce qui avait été signé. Ça m'a beaucoup fait rire à l'époque, c'était quasi de la non-science, quoi. C'est des problèmes qui ne se posent vraiment pas.
Après, moi, à titre personnel, dans ce qu'on appelle la génétique moderne, il y a finalement beaucoup de chimie, en fait. Et peut-être qu'on s'éloigne un petit peu des spécificités du vivant, du vrai vivant. Et là, quand il s'agit d'industrialiser le vivant, de faire produire des produits chimiques par des cellules, c'est intéressant, ça peut même être socialement utile. On fait produire des médicaments par des levures génétiquement modifiées, mais ce n'est qu'une toute petite partie. Le vivant, c'est donc, comme je disais tout au début, ce système en interaction avec l'environnement, etc. Et finalement, utiliser le vivant pour le transformer en usine chimique, c'est déjà quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Simplement, avant, c'était sans technique génétique de modification directe, on faisait juste de la sélection. Quand on fait un élevage de poulets industriel, c'est pas tellement conceptuellement différent que de faire produire par des levures de l'insuline. On réalise un produit complètement industriel, mais surtout il y a beaucoup de produits chimiques qu'on obtenait par fermentation lactique. L'usage industriel du vivant, c'est quelque chose d'ancien. Mmh. Et là, on passe à une nouvelle phase avec les techniques génétiques. Mais ça serait dommage de limiter la réflexion sur le vivant à ce côté-là utilitaire et pour obtenir une production directe. Et c'est aussi intéressant de réfléchir au vivant en tant que système en interaction, des écosystèmes, le comprendre, etc.
C'est vrai que vous parliez justement de la production d'insuline par les bactéries. Le problème, c'est que les bactéries ne font pas tout le processus. Et justement, on a un petit peu exploré tout le genre des champignons. Maintenant, est-ce qu'on va justement vers des dispositions avec les végétaux et avec le genre animal qui sont accessibles du coup justement à ces biologistes du dimanche, je veux dire. On n'est que samedi. Ou est-ce que c'est encore trop tôt?
Non, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait vraiment dans les bio hack labs. On fait finalement aussi très très peu de modifications génétiques parce que comme je disais tout à l'heure, ça nécessite du matériel, ça nécessite des... Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est des activités beaucoup plus intéressantes finalement parce qu'elles sont de bas niveau financier. On peut les faire pour pas cher. Et donc finalement, on va chercher ailleurs que dans la science officielle des gros labos.
Et donc et concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les biohack labs?
J'ai vu que certains, donc, comme tu disais tout à l'heure, faisaient du papier, des encres, pas forcément par modification génétique. On fait dans les biohack labs tels que je les connais, on fait quand même aussi beaucoup d'électronique et d'électromécanique et de choses finalement de fabriquer des machines pour la biologie sans vraiment les utiliser pour des projets réellement profonds. Mais c'est déjà intéressant. Ça fait beaucoup penser à l'astronomie amateur où les gens construisent des télescopes qui sont un instrument amateur est capable de fabriquer une optique de qualité professionnelle. Simplement, il a un instrument plus petit, moins performant et il essaye de reproduire des expériences faites par les gros observatoires. Moi, je suis passé par là. J'ai beaucoup appris d'un point de vue pédagogique. Ça a été fondamental pour moi.
Oui, mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que justement, les astronomes amateurs font quand même des découvertes. C'est justement tout le spectre justement des objets stellaires qui n'intéressent pas actuellement justement les comètes, les recherches et tout ça.
Typiquement, les comètes sont découvertes par des amateurs. Il y a toutes sortes de choses intéressantes et utiles que font les amateurs, mais en dehors du champ officiel, commercialement exploitable.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été découvertes comme ça par des biohackers connus?
C'est probable. Alors, forcément, il y a des petites découvertes qui ont été faites. Là, j'ai pas d'exemple en tête, a priori. Mais je voudrais insister fondamentalement, parce que là, finalement, mon propos initial, c'était de dire que depuis le début, la domestication du vivant, l'homme a expérimenté comme ça et a bidouillé le vivant.
Oui, oui.
Et donc, la plante, la théosinte, qui est un peu le grand-père du maïs qui pousse au Mexique, c'est un truc à peine mangeable. Il y a quelques grains tout moche.
Oui, qu'on a fait évoluer pour...
Et donc, ces gens-là... Ils ont fait des découvertes fondamentales. Ils ont très patiemment, pendant des centaines d'années, sélectionné, amélioré les plantes, etc. Et c'est devenu une plante d'usage mondialisé qui donne à manger à une grande partie de la population. Le manioc, c'est pareil. Le manioc, à l'origine, c'est une racine qui est toxique. Il faut la détoxifier. Qui a eu l'idée ? C'est complexe. Il faut faire très attention. Ça contient du cyanure, des trucs comme ça. Il y a bien quelqu'un qui a bidouillé ce truc pour transformer un machin immangeable en un machin mangeable.
Son cousin est mort d'ailleurs.
Et les conséquences pour l'humanité sont faramineuses. Le manioc, ça donne à manger à vraiment des millions et des millions de personnes.
Et on est toujours sur le plateau de CPU monté au sein de Mixar Miris pendant le THSF. Donc avec Emmanuel Ferrand qui est chercheur et mathématicien à l'Institut... À l'université Paul et Marie Curie, je vais y arriver. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi on pose des questions de biologie à un mathématicien.
On a déjà évoqué cette question en début d'interview où tu étais descrit. Tu réécouteras l'émission.
J'ai
pas de
changé
temps
de cerveau entre temps. Voilà.
On a déjà parlé de ça. On va pas se répéter.
Non, si je peux dire un petit mot là-dessus.
Bien sûr, allez-y.
un système vivant, et la biologie dans son ensemble, c'est quelque chose qui est mal défini. C'est très différent d'un système où il y a des zéros et des uns. On peut dire un truc est vrai, un truc est faux. En biologie, c'est des effets statistiques, et vous-même, en tant qu'être vivant, vous n'êtes pas bien défini. Quelle est la limite ? Est-ce que votre flore intestinale, ça fait partie de vous ? Si on vous l'enlève, vous êtes mort tout de suite.
Surtout que selon les dernières recherches, apparemment, justement, ça influe sur notre manière de réfléchir, de penser, notre alimentation.
Absolument.
Aussi. Ouais.
Et donc, voilà. Donc, tout est mal défini. Et les frontières de la biologie elles-mêmes sont floues. Et ça va jusqu'aux mathématiques. Mais pas que, ça va partout.
Emmanuel, j'ai coupé Gaël qui avait une question pour vous.
C'est pas grave. Tout est toujours très intéressant. Mais du coup, ma question que je voulais poser avant la pause musicale, c'était, vous parliez beaucoup des États-Unis, puisque le mouvement est peut-être plus développé là-bas. Mais aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça représente ? Combien il y a de gens qui se réclament de cette étiquette ? Est-ce qu'il y a plein de gens qui le font sans le savoir ? En gros, est-ce qu'on pourrait quantifier le nombre de gens qui se retrouvent là-dedans ?
Bien, alors donc, il y a d'un côté effectivement ceux qu'on va regrouper dans le contexte de l'idéologie bostonienne, californienne dont je parlais tout à l'heure, MIT, Silicon Valley, très dans le storytelling et dans le positivisme. Là, c'est, je sais pas, quelques centaines de personnes, peut-être quelques milliers de personnes en France qui sont regroupées dans des structures plus ou moins reliées au monde académique.
Dont pas mal de bio-artistes aussi.
Alors, il y a aussi des gens qui se... C'est très intéressant de voir que ça infuse dans les écoles d'art, dans le monde de l'art contemporain, l'art de marché, etc. Il y a aussi l'art de squat, c'est pourquoi pas. Donc il y a ça d'un côté, et puis donc on a déjà beaucoup parlé de ceux qu'il faut pas oublier, c'est ceux qui font du biohacking sans le savoir et qui sont quand même très 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 nombreux. Voilà. Alors peut-être pas les agriculteurs classiques, puisque maintenant ils sont dans un système agro-industriel assez féroce.
Et qui leur enlève ce côté justement, ils ont des semences infertiles, on leur donne, ils font presque plus d'élevage.
Oui, alors donc il y a une histoire de tout cela, il y a une raison pour laquelle on arrive là, ça serait l'objet d'une émission dans son entièreté, c'est des questions très complexes. Mais je sais pas, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, il y avait le mot chocolat, c'est ça dedans ?
C'était... Chocolate Whiz.
Voilà, le chocolat, en plus que, donc le chocolat c'est encore réel.
C'est le nom du groupe, hein. Voilà. J'ai oublié de dire.
Voilà. C'est une plante qui est cultivée sous d'autres contrées, parfois des petits producteurs qui ont chacun leur spécificité pour la fermentation. Bizarrement, on ne le sait pas beaucoup, la fermentation du cacao avant les autres étapes est très très importante pour le goût, pour le savoir-faire humain des gens et les régions, le terroir, tout ça, c'est des choses qui sont un peu comme pour le vin, qui relèvent d'une certaine forme de biohacking. Et un bon viticulteur, vous voyez, sur un même terroir, vous avez des gens qui font du bon vin, qui savent tirer des saveurs de leur truc.
Mais c'est comme un cuisinier, alors qui sait bien travailler une viande, bien la marier avec différentes sauces et tout la faire sait, vieillir un peu, des choses comme ça.
Tout le monde sait que la cuisine, effectivement, c'était relié dans la tête des gens à une sorte de chimie et des recettes de cuisine. Mais évidemment, c'est très proche de la biologie aussi.
Et en fait, il y a 60 millions de biohackers en France.
Hein. Ah, bah disons qu'il si on a conscience de ce qu'on fait, c'est quand même mieux.
D'accord.
Voilà.
Donc,
mais
biohacker, réveillez-vous quoi.
Bah disons qu'après, effectivement, croire par exemple qu'il suffit d'avaler des pilules de vitamines, de probiotiques, d'anone ou de trucs comme ça pour aller bien, c'est pas un bon point de vue à mon avis. Et donc être conscient de ces interactions, du fait qu'il vaut mieux prendre une vitamine dans un fruit plutôt que de la prendre en tant que molécule chimique indépendante, elle ne sera pas assimilée de la même manière. Ou prendre du calcium en pilule, du magnésium en pilule, c'est différent que de prendre du magnésium dans du chocolat, par exemple. Voilà, il y a un peu d'éducation populaire qui est pas voilà, ça devrait faire partie de plus que ça ne l'est maintenant de la culture la culture générale.
C'est un outil d'éveil en fait. Voilà. C'est ça que vous voulez faire passer aujourd'hui
mais
à la conférence.
Pour toutes les sciences, mais en particulier pour la biologie, parce qu'on est on arrive à ce stade où justement il y a des enjeux. C'est une évolution ultime de la prise de pouvoir d'un système. J'allais dire capitaliste, mais il faut se souvenir de l'agronomie soviétique et comment c'était aussi très très radical dans la destruction et
c'était la chronique que je voulais préparer sur la vernalisation justement qui était une grande lutte scientifique et idéologique qui était intéressante. Ça on la passera dans une de nos émissions plus tard.
Voilà, une question fascinante.
Du coup, ouais, le message que vous vouliez porter principalement ici, ou les messages en venant et en participant tout à l'heure à la conférence?
Eh bien, donc ici, dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui sont des hackers au sens classique du terme, qui sont des experts en code, etc. Prendre un peu de recul sur le paradigme informatique en biologie, c'est-à-dire, c'est certes très utile de comprendre comment le génome est codé, etc., et comment le décoder, mais le replacer dans un contexte, typiquement dans un contexte temporel, la théorie de l'évolution, très intéressante du point de vue mathématique, cette théorie, et la théorie de l'évolution qui a abouti à faire vraiment ces systèmes vraiment fascinants et incroyables, qui dépassent de très très loin tout ce qu'on peut imaginer dans nos sciences de l'ingénieur. On parle beaucoup d'ingénierie du vivant, mais c'est une grosse claque quand on regarde ce que fait vraiment le vivant. C'est une leçon d'humilité incroyable. Donc voilà, pour que les gens prennent conscience de cela, parce qu'on a on a l'impression finalement, si on regarde les médias à la mode en ce moment, que c'est le contraire, c'est que nous, avec notre science d'ingénieur, on va pouvoir prendre le pouvoir sur le vivant. Alors il y a des gens qui ont intérêt à nous faire croire cela, parce qu'après ils vont typiquement nous vendre des semences garanties, trucs machin, Il y a des intérêts idéologiques dont il faut avoir conscience. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ces techniques, mais c'est juste qu'il faut que les gens sachent où ils vont mettre les pieds, qu'est-ce qu'ils achètent et qu'est-ce qu'ils font avec ces idées. Et donc replacer ça dans un contexte, surtout chez les hackers, qui sont obsédés par le code et qui peuvent avoir peut-être l'envie de s'engouffrer dans cette approche qu'on qualifie souvent de réductionniste, de manipulation juste informatique du vivant. Oui. Cette idée qu'il suffit d'éditer de l'ADN sur son ordi et ensuite de le faire imprimer. J'exagère. Hein. Et que voilà, on peut tout. Mais cette idée est très répandue. Et précisément, si on veut vraiment faire quelque chose de pertinent, il faut ne pas s'empêcher de faire ce genre de choses, mais avoir conscience des limites de ce qu'on peut faire comme ça. Parce que précisément, ce qui caractérise le vivant, c'est que ça n'est qu'une description extrêmement grossière. Comme je disais tout à l'heure, rien n'est zéro, rien n'est un. Tout est statistique, tout est flou, tout est dépendant de l'environnement. Et donc, il y a cela, plus une complexité qui est bien supérieure qui se raccroche là-dessus.
C'est vrai que c'est extrêmement intéressant de raccrocher ça à l'écosphère, à la biosphère, à l'écosystème. Ce qui est intéressant aussi, c'est de tenter de provoquer des fois par des mutations, par des radiations. C'est fait soit effectivement près de réacteurs, soit c'est fait en balançant des microbes dans l'espace et de voir ce qu'il en retombe et justement quelles en sont les retombées à partir de là sur ces mutations qu'on envoie au petit bonheur la chance.
Ah, donc on est en plus en ce moment dans un moment fascinant de l'histoire des sciences. On a découvert il n'y a pas très longtemps, je dis on, en fait c'est quelques équipes, une méthode qui s'appelle basée sur des phénomènes naturels. D'ailleurs, c'est pas l'homme qui les a inventés. Ils ont identifié et un petit peu hacké en quelque sorte des choses qui se passent naturellement. C'est des méthodes qui permettent d'éditer le génome de manière beaucoup plus facile et beaucoup moins chère. Donc ça s'est popularisé, disons, dans les 3 ou 4 dernières années. Et alors, première chose symptomatique, certaines de ces équipes, ceux qui sont issus des grands pays puissants, se battent pour déposer des brevets. Donc là, il y a une bataille incroyable entre deux universités américaines pour savoir qui va emporter le pactole. Donc ça, c'est juste symptomatique. Ensuite, ces techniques, on va nous les vendre justement comme étant une manière, cette fois, de généraliser ces méthodes de manipulation génétique. On voit d'ores et déjà des gens qui nous proposent d'éliminer les moustiques responsables des épidémies de paludisme, 60 millions de morts par an, je crois. Enfin, j'ai lu des chiffres comme ça, je ne peux pas les garantir.
60 millions, ça me semble un peu beaucoup, mais ça doit être cet ordre de grandeur.
J'en sais rien. Des millions de victimes, le Zika là, qui se répand, qui a fait sa première victime en France hier, je crois. Voilà. Donc on est, semble-t-il, technologiquement capable d'éliminer une espèce de moustique avec une technique de gene drive. On oblige un gène à se répandre dans une population, comme les moustiques se reproduisent très vite, très rapidement, un gène qui va les rendre stériles, en quelque sorte, envahit toute la population et ça fait disparaître l'espèce. Alors c'est très bien, mais simplement faire disparaître une espèce, c'est pas quelque chose d'anodin. Et on n'a aucune idée des implications à long terme. Il y a beaucoup de gens, cette fois des autres domaines de la biologie, des écosystèmes, etc., qui disent attention, un tout petit truc qui semble nocif, aussi anodin qu'une race de moustiques. En fait, on n'a aucune idée de l'impact que ça peut avoir. Et en fait, quand on regarde dans la science que produisent ces gens, il y a des exemples assez flippants d'effets complètement inattendus de la disparition d'une petite espèce. Et puisqu'on parle de disparition d'espèces, ces mêmes gens reliés en fait aux grandes, aux GAFA, etc. Bizarrement, c'est souvent des recherches financées par Google ou des gens de ce que j'appelle l'idéologie californienne. Ils vont être des militants de la dé-extinction. C'est-à-dire, ils vont dire, très bien, l'homme produit une extinction massive des espèces, mais finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, parce que maintenant, on est capable de créer de la diversité génétique par nous-mêmes, de recréer des nouvelles espèces. Alors, ce discours, il est rarement pris au sérieux par les vrais scientifiques. Mais par contre,
il existe.
Ce qui est flippant, c'est qu'il est répandu dans les sphères transhumanistes, les sphères semi-grand public, et finalement, c'est utilisé aussi bizarrement par des gens qui vont faire... Ils disent, finalement, le réchauffement climatique, c'est peut-être pas si grave que ça, parce que de toute façon, on peut faire des plantes qui vont résister au réchauffement, on va créer des nouvelles espèces, on va s'adapter. Et donc là, il y a un vrai discours idéologique là, qui se greffe là-dessus. Donc c'est pas vraiment le fait des chercheurs, d'ailleurs, mais c'est plutôt une sorte de les Ray Kurzweil, ces personnes qui grenouillent aussi, d'ailleurs, dans le milieu des hackers, faut qu'on en soit conscient. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont qu'une seule envie, c'est d'aller sur Mars, d'être les premiers dans, et on les comprend. Il faut moi ça fait aussi partie des choses que j'ai envie de dire, c'est de rappeler ce genre de fait, que c'est pas si simple.
Et merci beaucoup Emmanuel Ferrand pour toutes ces informations, ce brassage d'idées sur le biohacking et tout ce que ça traîne.
Surtout il faut remercier les gens d'ici, ce festival extraordinaire, c'est vraiment fascinant.
Surtout que donc vous allez faire une conférence tout à l'heure à 13h. Au moment où nous diffuserons cette émission, la conférence sera disponible aussi en vidéo à part, donc on aura plus de renseignements, sera vraiment dans la continuité de cette émission. Est-ce qu'il y a des revues ou des sites sur lesquels vous écrivez régulièrement, vous intervenez?
Donc, la semaine prochaine, dans le centre de la France, il y aura une grande journée fermentologique à l'occasion du relancement d'un site web qui est un peu en dormance, comme les semences, qui s'appelle Free Fermentology Foundation, FFF.
Et plus globalement, sur le biohacking, où on peut trouver des infos si on cherche à se renseigner, à se former un peu à ça?
Il y a plusieurs documentaires qui ont été faits, qui font des gens qui circulent entre les biohack labs et qui montrent un peu l'écosystème. Et je pense que si on regarde ce documentaire avec les commentaires que je viens de faire à l'instant, ça permet.
Et alors, du coup, juste deux exemples de biohack labs où on pourrait se rendre pour rencontrer les gens qui en font.
Bien,
en
alors. À Paris, il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle la Payas, qui est une grosse institution avec beaucoup d'activités très variées. En arrivant ici à Toulouse, je me suis aperçu que c'est peut-être moins connu dans les médias, mais associé au Fab Lab Artilect, il y a des gens qui font de la biologie. J'ai regardé les projets qu'ils font, c'est tout à fait similaire à ce qui se fait à la Payas à Paris. Okay. Et c'est à peu près le même genre de choses en fait.
Ça leur fera extrêmement plaisir pour le coup. Emmanuel Ferrand, merci beaucoup.
Merci beaucoup.